à tous et bienvenue dans Rancard, le magazine à la rencontre des humains dans la vallée, en direct sur IP, fabriqué pour vous par Globule Radio 90.5. Je suis Mélanie, accompagnée de Claire. Coucou Claire, ça va pour toi?
Oui, ça va pour Mélanie.
Ça sent les vacances?
Non, pour moi, c'est bien sûr.
Alors oui, on se retrouve en direct tous les mercredis et vendredis de l'été à 17h30 chez l'un de nos partenaires.
Et aujourd'hui, nous sommes accueillis au Sound Bar, qui est un des seuls bars ouverts tous les jours de l'année à Chamonix-Sud. Un grand merci au Sound Bar pour leur accueil.
On est ensemble pour les deux prochaines heures. Vous pouvez venir nous rejoindre au Sound Bar. Et on est avec Jean-Claude, Kerstin, Justin, Charlotte. La technique.
Ça va la team? Ça se passe bien pour vous? Ça a l'air, pour sous la pluie, mais ils ont l'air d'être contents, la forme. Super. Alors aujourd'hui, nous allons accueillir, on fait une émission un peu autour du ciel de Chamonix. La Chamonix vue du ciel. Et notre première invitée aujourd'hui sera Jennifer Jones, qui est pilote de ligne.
Oui, Mélanie, on va aussi accueillir Pascal Brun, qui est pilote d'hélicoptère dans la vallée depuis 33 ans. Donc il va bien en voir des choses de là-haut.
Et il y aura aussi Benoît Moucolon, qui est fondateur et pilote volontaire pour les embarcations, pour repérer les embarcations de réfugiés en Méditerranée, pardon.
Pour l'association Pilotes Volontaires, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Merci.
Et nous rencontrerons aussi Quentin Iglesias, qui est photographe à Chamonix et qui a un œil sur la vallée du Dent.
Et nous le recevrons en toute fin d'émission, mais avant ça, Charlotte viendra nous présenter la météo, la petite Charlotte que nous avons eue hier.
Oui, on va aussi écouter le 6e épisode de la chronique de Justin.
Et si vous ne savez pas quoi faire ce soir ou les prochains jours, suivez nos agendas, comme ça on a de quoi vous occuper.
Mais avant de recevoir Jennifer Jones, un peu de musique.
À la rencontre des humains de la vallée,
en direct de tous les temps.
Y'a le temps, Thomas, osé dans le banc, Thomas, avant ma tête sans Thomas, mais le type temps, Thomas, ne fait pas ses temps, Thomas, voilà, non, c'est genre, Thomas, dirige, pèse pas tant, sauvage, j'en ai trouvé un grand, Thomas, pas mal, c'est pas Thomas, non, je veux Thomas, oh, oui, parce que tu peux pas te dire, tu te dois du rock, maman, j'ai déjà Thomas, ah, même, j'ai dû mes cartes de haut, pas, tu dirais quand t'as, mais t'as, quand t'as, je reste nomade, Thomas, tu crèves tes potes, on n'a pas trouvé la sauvegarde, tu viens d'après ma vie, j'ai un peu coloré, un an et deux, tu peux la trouver en location. Fantômes, 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 fantômes. Oui, Thomas, je suis pas là pour comme un stomaï. Les mecs sont dans un chocolat, je fais le sang, je fais Yaman, je fais le Ronald. Comment veux-tu, diplomate, les mecs qui viennent et le consoles. Tu es dans la bouche, dans le bois, ma bouche, j'ai réalisé de l'audace. Je sens des portes de la somme, j'ai fait un peu feuille des beaux bras. Tu verras tout dans le beau mal, tu seras tout dans le beau mal. Si tu fais les choix, j'ai l'air à l'eau, ça te porte mes gars, on a trop de points. Ça prend le plat de tes bois, attends une dame, on t'en bat. Fantômes, 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 fantômes.
On est au South Bar, placé dans des Aïeux, à Chamonix-Sud. Encore merci à eux de nous accueillir pour cette émission. Et également un grand merci à Altitude Alpine Dry Gin pour leur sens qui permet d'avoir la technique à l'abri de la pluie, parce que sans eux, je ne sais pas comment on aurait fait. Alors, on est en compagnie de Jennifer Jones. Bonjour, Jennifer. Et voilà, et alors Mélanie a préparé un petit portrait.
Alors, la Jennifer Jones que nous recevons aujourd'hui n'est pas l'actrice américaine de la Tour Infernale ou de Duel au Soleil. Mais voilà quand même le soleil, notre Jennifer Jones, celle qui est présente sur le bureau radio pour Brancard, le Et puis elle y va au soleil. Elle rentre de Bangkok et elle part à Pointe-à-Pitre. Elle est dans une valise, cette femme. Cette blonde aux coudettes domptées et au sourire éclatant, pilote de l'île pour la France. Oui, oui, pilote, voilà pour de vrai. Vous avez vu le pilote? C'est une femme. Daniel Picot, la première femme pilote entrée à Air France en 1974, en avait fait un livre. Bien connu pour son combat qu'elle a donné pour s'imposer dans ce métier. Alors, cette pionnière avait pris ce moment vers la voix. Et on n'entend plus de. On ne leur fait pas confiance pour m'emmener le manche à balai, qu'elle reste derrière leur balai. Mais c'était tout de même pas simple parce que j'ai appris sur environ 3800 pilotes. Et ben, quand même, c'est pas gagné. Alors, comment est-ce que vous allez arriver? Votre papa, le chanteur, le chanteur est connu pour être pilote de Et entre deux concerts, il vous a offert un de 14 ans pour prendre un petit tour de vol avec un autre. C'est là que vous avez la vie haut et fort. Et vous découvrez très tôt quand vous êtes tellement ça vous enlevait au 7ème jour. Un bac de temps, pour une première année, ça seulement, une deuxième année, zéro place, une troisième année, et puis la quatrième, 1200 places. Vous êtes enfin prise. Deux ans ensuite, vous quittez à Toulouse, entre Macron et Bonne aussi, et vous faites enfin votre entrée vers France en 2001. Vous comprenez en septembre, mais vous n'avez pas pensé que c'était un mauvais projet. Non, ce n'est pas du tout votre genre, vous avez foncé. Engagé comme syndicaliste, délégué personnel au bureau des affaires internationales, puis comme présidente du Sighting Pilot Alliance, des 35 000 pilotes dans le monde, c'est pas rien quand même. Cet engagement, vous venez de le remplacer par tout le monde. Vous avez des énergies à revendre, à donner, mais où est-ce qu'on trouve votre temps, hein, pour faire en plus du parapente, des vols en hélicoptère, du planeur, du hockey, des cours de chant et maman en plus. Bon, la musique, bon, bah, ça c'était forcé entre votre maman prof de musique et votre père, Michael Jones, dans la famille, tout le monde fait de la musique, ça c'est important. Mais pourtant, pour vous, tout semble important. Arrivé à Chamonix parce que vous étiez amoureuse, vous êtes aujourd'hui amoureuse de Chamonix et bien décidé de continuer à faire pousser vos deux bambins ici, protégés dans la solidarité et la douceur chamonnière. Alors, Jennifer Jones, bonjour et bienvenue dans Rancard. Ouais, c'est un plaisir. Alors, le Chamonix du ciel, c'est quoi pour vous?
Le Chamonix du ciel, c'est un peu plus de la vie. Oui. Le fait que je pense par rapport à la première fois que je vais le faire du Chamonix, c'est un peu plus de la vie.
Et c'est vraiment différent le Chamonix du ciel.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est différent. Ça commence à ressembler quand tu veux que tu Et donc, on a une photo de la salle, 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 on a une photo de la salle chose de la vallée, c'est le blanc, c'est le mot blanc, et après le mot bleu.
Le bleu,
ouais. Donc en fait, c'est aussi le bleu, c'est par exemple le bleu, c'est le bleu, c'est le bleu, c'est le mer de l'eau, c'est le bleu, c'est le bleu, c'est le bleu, c'est le bleu,
ouais. Oui, c'est ça, je voulais voir vous poser la question, c'est différent le, de jour et de nuit.
Oui, alors la nuit, quand on a besoin d'avoir les deux on voit pas tellement tous les soleils, tous les blancs qui se passent. Et en fait, c'est très très bien.
Donc vous voyez les travailleurs de nuit en fait. D'accord. Et avec ça fait quand même plusieurs années donc que vous êtes la pilote et vous avez vu les glaciers souvent. Est-ce que vous voyez le recul des glaciers ou pas? Est-ce que ça, au fur et à mesure des années, vous vous rendez compte que ça a changé?
Oui, bon, alors, évidemment pas autant que ça, le côté que vous voyez.
D'accord, donc ça vous le voyez vraiment, vous avez vu. Bon, et comme tout le monde, vous avez dû arrêter votre activité pendant le Covid. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on est pilote? Parce que c'est ça. Vous ne restez pas chez vous tranquille et reprenez un avion comme ça, rassurez-moi un peu là.
Alors déjà, on n'a pas tout parlé, c'est vrai que le monde a continué à fonctionner pendant le Covid, donc c'est vrai que ça a continué à fonctionner un petit peu, et on a pas pu se faire le monde. C'est difficile, mais c'est ça. Alors, ça a été fait le monde. Donc, les avions, on a continué à faire de la marque de
D'accord, mais du coup, quand vous avez arrêté ou pas? Oui. Du coup, quand on arrête, c'est comme reprendre le vélo après, vous remontez dans un avion, hop, hop, et puis c'est reparti. D'accord. On va écouter un peu de musique et puis on se retrouve juste après. Merci Jennifer Jones.
I'm styling breeze. And watch the ankles break. Whoa. I know you wish, I know you wish I would fade away. But I got more to say. Lord, they pray.
De la pollution faite par les logements. Et je sais que vous êtes une personne qui est quand même assez engagée, que la pollution, c'est quand même quelque chose qui vous tient aussi à cœur. Ça doit être difficile et complexe, non, questionnement.
Alors, en fait, c'est personnel. On n'en parle pas assez.
L'aviation, c'est une industrie qui ne cesse d'essayer d'être la plus propre possible. Chaque nouvel avion qui sort, chaque nouvelle technologie fait qu'il y a moins d'empreintes écologiques, moins d'empreintes carbone. Et il faut savoir par exemple que nous, notre travail quotidien dans l'avion, c'est qu'on calcule au plus près un carburant pour faire par exemple là le Paris-Bangkok. On va le faire en fonction de la route mais aussi de la météo et puis des conditions à l'arrivée et de savoir au plus juste ce qu'on va prendre comme carburant. Et puis pendant le vol, on a des outils qui nous permettent de réduire la vitesse, d'augmenter notre altitude pour consommer de moins en moins. Et ça, on le fait tout le temps. Ah oui, oui, parce que c'est aussi une question, certes écologique, mais aussi économique, bien sûr. Alors après, on n'a pas tous les mêmes outils. Et nous, la chance qu'on a, même s'il y a le Covid et c'est très compliqué pour tous les transporteurs aujourd'hui, c'est qu'on avait déjà décidé de renouveler notre flotte avec des avions bien plus propres. Donc là, on a les A350, les Airbus qui arrivent, et il va y avoir les Airbus A220 sur moyen courrier qui vont arriver, qui sont des avions vraiment propres. On a déjà le Boeing 787, qui sont des avions plus légers et qui consomment vraiment beaucoup moins de carburant. Par exemple, j'étais sur 787. Sur le même vol, on consommait 20% à 30% de moins de carburant que sur le Boeing 777. Le transport aérien, c'est 2 à 3% des émissions de CO2. Ce qu'on dit moins, c'est que le numérique, c'est 10% des émissions de CO2. Et on dit qu'il faut arrêter de prendre l'avion, c'est pas bien. Il y a plein de personnes qui commencent à dire ce genre de choses. Déjà, il faut arrêter de stigmatiser parce que l'avion, ça sert à quelque chose. Ça sert à consommer. On peut peut-être un peu moins consommer, ça pourrait être une bonne idée. Mais ça sert aussi à rapprocher les familles, à rapprocher les gens qui s'aiment. Ça sert à partir en vacances, mais partir en vacances, ça sert à découvrir le monde. Ça sert à... Je pense que ça ouvre l'esprit. Moi, aujourd'hui, j'ai fait 4 vols depuis le Covid. New York, Pointe-à-Pitre, Hong Kong et Bangkok. c'est très particulier de voyager en ce moment. Ça permet de voir qu'en France, on est très bien. Quand je vois les États-Unis, ce que j'ai vu à New York avec des places vides, des gens stressés, en plus c'était exactement en même temps que les émeutes qui concernaient George Floyd, donc c'était très très difficile. Le système médical américain qui est sinistré. Franchement, ça, vous savez bien, les Français, on se plaint souvent. Bon, et ben, voilà, on est vraiment plutôt bien lotis. En Asie, là, j'ai fait Hong Kong et Bangkok. Dans ces deux villes, il y a d'énormes tensions politiques. Ça aussi, c'est très tendu en ce moment dans le monde. Et c'est important de le voir. Alors, tout le monde ne peut pas le voir. Nous, on est des travailleurs nomades, donc on le voit. Mais quelqu'un qui part à l'étranger découvrir le monde, il va obligatoirement, voilà, s'ouvrir l'esprit. Après, je pense qu'il faudrait éduquer les gens, et puis nos enfants aussi, surtout, par rapport au numérique. Voilà. Une minute de YouTube. Tout le monde connaît YouTube. C'est un an, une ampoule allumée. Voilà, c'est ça. Voilà. Le problème de YouTube, c'est qu'on y voit pour voir une vidéo. En fait, on en regarde 10. Et les enfants, notamment, sont, enfin, les adolescents sont habitués à faire ce genre de choses. J'ai d'autres exemples. Il y a les mails, par exemple. Par heure, il y a 12 milliards de mails qui sont envoyés. 12 milliards. C'est l'équivalent de la production nucléaire de 18 centrales. Un film regardé en streaming, en HD, on le fait tous, ça. C'est la même chose que si on regardait le film qu'il avait été produit sur un DVD, fabriqué, envoyé et qu'on le regardait sur un lecteur. Et puis le dernier truc que j'aime bien dire aussi, c'est Google. Google, c'est 40% des émissions de CO2 d'Internet, mondialement. Donc c'est énorme. Par heure, c'est 140 millions de recherches. 140 millions de recherches, c'est l'équivalent de 1000 allers-retours Paris-New York. Voilà. Donc, il y a des petites choses toutes simples à faire.
Alors, on a une super connue sur le groupe de la radio qui est faite par Charlotte, hein, et Jean-Claude, et ils ont travaillé là-dessus. Donc, on vous l'enverra, ou on vous enverra un lien.
Ah, volontiers.
En tout cas, merci, c'est super d'avoir un point de vue aussi différent et d'avoir des comparatifs, c'est vraiment chouette. Vous êtes maman aussi.
Oui.
Et être maman et pilote,
ça se passe bien, il faut bien s'organiser. Il faut bien s'organiser avec le papa aussi. Il se trouve que le papa est pilote aussi, et donc on est en garde alternée et que ça se passe très bien, on arrive à bien s'organiser. On a la chance d'avoir des plannings qui sont à l'avance. On a des vues 3 mois, 2 mois, et puis 1 mois à l'avance. Et puis après, au dernier moment, des petites choses qui peuvent changer, mais c'est assez facile de s'organiser. Puis on a des enfants qui sont très habitués à savoir qu'ils restent 4 nuits chez papa, et puis après, qu'ils vont 3 nuits chez maman, et que maman, elle appelle, ah non, mais là, est-ce qu'il fait jour, maman, ou t'es enfin, voilà.
Et alors, qu'est-ce que vous conseillez à un jeune ou une jeune qui a envie d'être pilote ? Alors, je crois que j'ai une bêtise tout à l'heure, hein, on avait parlé de formation, est-ce que vous pourriez vous corriger ?
Oui, alors en fait, moi j'ai fait le concours de l'école nationale d'aviation civile, l'ENAC, et tout à l'heure vous avez dit que l'année où je l'ai réussi, il y avait 1200 places. Non, on était 1200 candidats. En gros, c'est toujours pareil. Il y a entre 1000 et 1200 candidats. Et l'année où je l'ai réussi, il y avait 23 places. Et non, c'est pas grave. Non, c'est juste parce qu'en fait, c'est un peu compliqué. Ça demande et du travail et de la chance. D'avoir ce concours. Je voulais pas que les jeunes puissent se dire « Ah ben, ça peut s'ouvrir autant. » Non, ça ne peut pas s'ouvrir autant. Je pense qu'aujourd'hui, on en est plus à peu près à une quarantaine de places hors Covid. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on va avoir beaucoup, beaucoup de pilotes au chômage et je ne suis pas sûre que l'École nationale d'aviation civile va peut-être continuer. On va peut-être justement se retrouver avec des années où il va y avoir 4 places, 0, enfin, je ne sais pas. Il y a l'École nationale d'aviation civile. Il y a les cadets d'Air France, c'est à peu près la même formation, sauf qu'on rentre directement à Air France, formé par Air France. Il y a la carrière militaire, possible aussi. Et puis on peut aussi se former en privé, c'est-à-dire aéroclub. Et puis ensuite, accumuler des heures de vol en France ou à l'étranger. C'est souvent moins cher à l'étranger. Et puis, voilà, après, rentrer dans des compagnies de, d'aviation d'affaires. Et puis, alors, le problème, c'est que là, aujourd'hui, ça va commencer à être très, très compliqué. Ouais, oui.
Et l'endroit, votre endroit préféré dans le ciel, c'est quoi ?
Mon endroit préféré dans le ciel ? Alors, ça va être assez peut-être étonnant, je ne sais pas, mais c'est quand même ici un des plus jolis endroits à survoler. Vraiment, je crois que chaque pilote, quand on sait qu'on va passer au-dessus des Alpes, on est ravis. J'ai beaucoup aimé l'atterrissage à Tahiti. J'en ai fait un l'année dernière, où au bout de 8 heures de noir complet, au-dessus de la mer, on voit une lumière. Et on atterrit sur une piste à Tahiti, à l'autre bout du monde. Et ça, c'est, ouais, c'est magique.
Et l'endroit, vous préférez la Chamonix, mais avec les pistes en fait.
Bah, y a plusieurs endroits, bien sûr.
Il y a toujours un ou deux endroits où on aime aller se ressourcer, où on sait que.
Alors, ça va être assez bateau ce que je veux dire, mais j'avoue que ma terrasse. avec. c'est ça. J'ai un jardin avec une vue splendide sur le dôme du goûter. Alors. Je les enverrai. Moi, j'aime bien la rue des Moulins. Voilà. Parce que c'est un endroit où la journée, on peut se retrouver à boire un très bon thé ou café bio avec voilà, quelques boutiques avec une jolie vue. Et puis le soir, c'est une autre ambiance. C'est ça. Mais justement, j'aime cette ambivalence de cette rue.
On est toujours au Savoie, en tout cas. Merci beaucoup, Jennifer Jones. C'est un plaisir de vous recevoir. Et on va écouter.
Thank you. 90.5 et c'était Redbone de Childish Gambino avec mon super accent. On est en direct au South Bar et nous sommes avec Pascal Brun. On va bientôt faire son interview, mais tout de suite, c'est On fait quoi ce soir ?
Tu as promis une belle journée et la perspective d'une soirée en fumée.
Oui, mais on fait quoi ce soir ? Radio 96.5.
Alors, c'est quand vous pouvez nous rejoindre l'attitude, nous sommes au South Bar, à sa longitude, et on vous attend pour l'émission. Et après l'émission, vous aurez la chance de voir le Pizza Candy et Back-to-Back avec Pépin.
Qui sont en plus à la technique, vous aurez une avant-première. Il y a également une soirée spéciale Domaine des Amoureuses, ça se passe à l'Héliopique Hotel and Spa, c'est ce soir à 19h. Alors au programme, un menu à 40€ avec une sélection de tapas, suivi de 4 plats au choix, avec un accord mets et vins, vin au verre ou vin en bouteille. Les réservations, c'est au 04 50 54 55 56.
Le petit jazz band club qu'on a vu hier, c'est du jazz, du swing et du bon vieux New Orleans, pardon. On les a reçus hier soir, on a adoré, et ce soir, ils vont à l'Alibi et chez Mélanie, jusqu'à 22h30.
Et sinon, encore un soir avec un apéro jardin au Jardin des Cimes, donc ça se passe de 19h jusqu'à minuit. Le bar sera ouvert jusqu'à minuit, mais la restauration seulement jusqu'à 21h30.
Vigilant Dust Patrol, qu'on a reçu il y a quelques jours, joue à 21h30 en direct de la yacht. Ils viennent de sortir un nouvel album. Somewhere in the middle of nowhere, allez-y, ils sont vraiment géniaux.
fait Aviation de The Last Shadow Puppets. Avant de recevoir Benoît Nicolon, qui est pilote volontaire, on va d'abord recevoir une grande figure de Colombie, Pascal Brun, qui est pilote de l'hélicoptère.
Bonjour Pascal.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors Pascal, vous êtes venu à Chamonix en 1960 et vous avez très tôt montré un grand intérêt pour l'aéronautique, notamment en passant votre brevet de pilote privé en avion à 16 ans.
Oui.
Puis à 20 ans, vous vous engagez dans l'armée et avez obtenu votre brevet de pilote d'hélicoptère en 1981. C'était le début du rêve pour vous, puisqu'apparemment vous aviez toujours rêvé de faire ça.
Absolument.
Et c'est en 1992, il y a donc 28 ans, que vous avez monté CMBH, donc Chamonix Mont Blanc Hélicoptère, comme on voit sur votre Swift. Et ça fait déjà 33 ans en tout que vous volez dans le massif du Mont-Blanc. 33 ans donc que vous ne vous lassez pas ce paysage grandiose vu du ciel. À bord de votre hélicoptère orange et gris, toute la vallée vous reconnaît et vous connaît. Vous êtes quasi indissociable de votre hélicoptère, on peut le dire. Alors Pascal, je me demande comment vous expliquez cette passion si jeune pour l'aéronautique. Tout ça vous vient en fait.
Vous savez, ici on est entouré de montagnes. Donc si on lève les yeux, l'horizon est au-delà de ces aiguilles. Et pour y accéder, il n'y a pas 36 000 moyens, c'est soit à pied, soit par l'aérien. Et je crois que, comme tous les gamins de la vallée, j'ai été sensibilisé par le bruit des hélicos qui, à l'époque, était la dominante de ceux du secours en montagne. Et je me suis dit que ça devait être un métier formidable et que c'est celui que je souhaiterais faire. Donc, depuis tout petit, c'est le métier que je souhaite faire.
Et j'ai pu lire sur votre site que vous faisiez un parallèle entre l'utilisation de l'hélicoptère et l'écologie que vous appelez hélicologie.
Oui, c'est un petit mot que j'ai, on va pas dire inventé, mais que j'ai trouvé drôle, que j'ai transformé. On fait de l'hélicologie puisque l'hélicoptère participe à l'économie de montagne. C'est un outil incontournable de l'économie de montagne. Il construit des remontées mécaniques, il construit des bâtiments, des refuges. Et il évacue, entre autres, les déchets de ces refuges, puisqu'on redescend les poubelles que les alpinistes laissent là-haut. Pas seulement les alpinistes, hein, mais les gardiens qui préparent les repas de tous ces alpinistes, qui les nourrissent et qui les abreuvent. Donc tout ça, ça redescend soit dans les sacs à dos, ce qui est assez rare, soit par le biais de l'hélico. On démonte d'anciennes remontées, on démonte des bâtiments obsolètes, tout ce que l'on pourrait considérer comme étant des déchets qui resteraient là-haut sont évacués par l'hélico.
Est-ce qu'il y a des gens qui se plaignent du bruit de l'hélicoptère?
On se plaint, oui, bien sûr, on se plaint de plus en plus souvent du bruit, du voisin, enfin, je me plains moi-même du bruit de l'hélicoptère. Je suis le premier à se plaindre. Vous avez un peu tout résumé, c'est important, le privilège de bonheur de faire ça à toi. L'activité majeure de la mise en plan expo, ça reste que les travaux. Et maintenant, à 30%, tout le temps. Alors par le biais de une leçon de géographie et un peu aussi une leçon de climatologie. Alors d'aujourd'hui, beaucoup de gens reviennent sur le passé, redécouvrent. La mer de Jade est un bon exemple parce que c'est une cause. Des passerelles qui permettent de descendre sur la côte. Depuis le premier jour où déposé votre construction spéciale sur la côte, aujourd'hui, et le souvenir du rocher sur lequel il posait le coq. Le jour, il touche à la balle. Pourquoi c'est pour faire cette histoire? Pas normal. Vous savez, c'est en 3 ans de bonheur politique.
Si je peux me permettre, il avait même fait des choses formidables parce que moi, je vous ai dit sur Alien vs Predator, même arrêter votre moteur, quoi. L'hélice, c'est poser un patin, arrêter l'hélice, etc. Et vous savez, c'est hyper rare de le faire, ça. Je me trompe ou pas?
Alors, évite effectivement de poser, ouais. Oui, évite de se poser en haute montagne et de couper le moteur parce que ça va être de la mécanique. Le réalisateur voulait absolument cela, je m'en souviens effectivement. Le réalisateur souhaitait absolument ce plan et le risque que l'on prend, c'est que comme c'est de la mécanique, il suffit qu'elle ne redémarre pas pour qu'on soit comme un couillon là-haut avec sa machine et à ne pas pouvoir redescendre les gens qu'on a montés. Voilà, c'est pour ça qu'il faut être relativement bien chaussé, ce qui n'est pas toujours le cas pour moi.
Merci Pascal, on fait une courte pause musicale et on revient tout de suite. De Johan Papakonstantino. Vous êtes toujours sur Globule Radio. Vous pouvez nous suivre en direct live sur Facebook, à Globule Radio Chamonix et sur Instagram aussi. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires. Nous, on a besoin de vous pour grandir. Et là, nous sommes toujours avec Pascal Brun. Et je crois que tu as encore plein de questions à lui poser, Claire. Oui. Alors, je me pose une question. Combien d'heures de vol vous avez à votre actif?
Un peu plus de 25 000. Okay. Je n'ai pas le compte précis en tête, mais voilà, j'ai dépassé les 25 000 heures.
Et j'avais lu, en 2007, vous étiez à 1000 fois posé sur le Mont Blanc. Aujourd'hui, ça doit être un chiffre...
Je ne les comptabilise plus. Mais ouais. Effectivement, je me suis posé plus de... Ouais, peut-être plus de 1500 fois au sommet du Mont Blanc. Bon, je le fais toujours quand il n'y a personne au sommet.
Ah, c'est sympa.
C'est, ouais. Bah non, c'est la moindre des choses, et d'une. Et puis, c'est pas la peine de s'attirer les poudres des gens qui montent en fournissant un effort certain, un effort d'un certain effort.
Il faut combien de temps en décollant d'en bas pour aller jusqu'au sommet du Mont Blanc ?
Un aller-retour à corde tendue, on va dire, ça prend maximum 15 minutes. Ah oui. Argentière, sommet du Mont-Blanc, Argentière, 15 minutes.
Quand on sait qu'il faut des heures et des heures de marche. Et avant de décoller, est-ce que vous avez un rituel ? Est-ce que, par exemple, comme les avions, on fait plein de vérifications
Ah oui, bien sûr. On fait une visite de la machine avant de monter dedans, pour s'assurer que tous les capots sont fermés, qu'il n'y a pas de fuite d'huile, que tout est bien en place, qu'il n'y a pas un outil qui traîne, qu'un oiseau n'est pas venu faire son nid dans la turbine, par exemple. Bon, nous, ça ne risque pas de nous arriver parce que la machine vole tous les jours. Mais oui, il faut toujours faire le tour de sa machine. Et puis après, il y a un petit amphi-cabine, comme on dit. On vérifie que tous les voyants sont bien allumés, que les pressions sont correctes, les tensions d'électricité aussi. Et puis après, on met en route et on surveille la mise en route, montée de température, montée de pression. Bien sûr, c'est comme dans les avions, c'est ce qu'on doit faire un petit peu aussi dans sa voiture quand on met en route, s'assurer que le voyant d'huile rouge ne reste pas allumé.
Donc on ne va pas rouler trop longtemps, si jamais c'est le cas.
Voilà.
J'avais une question, mais je l'ai perdue. Je voulais aussi savoir comment vous vous sentez quand vous êtes en vol.
Je suis un peu comme un poisson dans l'eau. Je crois que c'est un peu mon élément. À telle enseigne que quand je ne vole pas pendant plusieurs jours, il me manque quelque chose. Donc je pense que je suis un drogué.
Vous ne prendrez jamais votre retraite ?
Si, bien sûr, parce qu'il y a une limite raisonnable à ne pas dépasser, quoi. Mais le vol, oui, c'est ma vie, donc ça me manquera forcément.
Peut-être que vous pourrez vous mettre au parapente ou...
Oui, j'ai pensé à faire d'autres choses. Le parapente, je pense pas, parce que je trouve que, en tout cas, dans la région, c'est très dangereux. Il faut vraiment bien maîtriser son outil, et c'est pas le mien. Moi, j'ai un moteur. Hein. Quand on a un parapente, on n'a pas de moteur. Et puis, arrivé à un certain âge, il faut aussi une bonne condition physique, donc il faut rester raisonnable. Et sinon, j'aimerais beaucoup faire de la voile. Donc, conserver cet élément qui est le vent.
Le vent, ouais.
Voilà. Et la voile, faire un petit peu après, pas tout à fait en forme, sur des petits bateaux, sans prétention particulière, quoi. Mais combattre encore cet élément sur l'aérien, qui est le vent avec lequel j'ai passé une bonne partie de ma vie.
J'ai une dernière question. Sur votre hélicoptère, il y a une femme sexy. Comment c'est vous qui avez décidé qui est dessus ? Comment ça ?
Alors, c'est une histoire un petit peu malheureuse parce que on avait une machine avant sur laquelle il y avait un aigle. Malheureusement, cette machine s'est crachée et dans cet appareil sont mortes 4 personnes, dont entre autres le nom de mes garçons. Et avant que ne disparaisse cette machine, avec Tony, mon équipe, on s'était dit que le prochain appareil qu'on achèterait, on ferait une décoration vintage. Et donc, quand il y a eu ce crash, on n'a pas pour autant arrêté l'entreprise, ne serait-ce que par devoir de mémoire pour tous ceux qui ont disparu, pour ne pas parler que de mon fils Sébastien. Donc, il fallait que ça perdure et on est parti sur cette idée-là. Et donc, Tommy et sa maman ont pris contact après avoir longuement recherché sur Internet une pin-up qui plairait. Ils ont pris contact avec Romain Hugo, qui est un dessinateur de bande dessinée d'aviation. Quand ils ont raconté l'histoire, Romain Hugo, à qui je rends hommage, nous a très, très gentiment abandonné les droits d'auteur. C'est une note de Romain Hugo qu'on a un petit peu trafiqué à la Savoyarde, puisque l'équipe de Savoie est sur sa bête. Mais c'est une note d'un dessinateur grandement connu dans le monde de l'aéronautique.
Merci beaucoup, Pascal.
Merci. Je les faisais miennes.
juste que photographe, on va peut-être rencontrer Benoît Nicolon. Bonsoir, Benoît.
Et une personne qui nous a dit ça tout à l'heure, oui.
Thank you.
c'était Peace of Mind de Shotai. Avant de retrouver Benoît Micolon, on va d'abord retrouver Benoît Micolon, mais ensuite on retrouvera la chronique de Mifin avec son sixième épisode sur le CBD. Pardon, Benoît Micolon, je crois qu'il y a encore des questions à lui poser. C'est sûr qu'on comprend. Thank you.
toujours solidaire ou pas? D'accord.
Et nos nuits, nuits passées, c'était pas la nuit, j'étais un peu fatiguée, j'ai pris un dernier verre, et puis une cigarette. La lumière dansait, elle éclairait ses yeux, c'était la lumière, tu me fermes la peau bleue, tu me fermes la peau bleue. Je prends une table.
Avant de rencontrer Quentin Iglesias et d'écouter la chronique de Lucin qui s'appelle Cannabidiol, on va vous dire quoi faire ce vendredi, ce week-end. Ce week-end. Alors, il y a Douglas qui est notre super technicien vidéo normalement qui jouera avec Maya, Sweden and Sarah, c'est son duo acoustique, au Robinson à 19h demain soir et dimanche au Big Mountain Bar à 18h.
Alors, il y a aussi un concours de dessin qui est jusqu'au 31 juillet. C'est rien que pour vos chers bambins de 3 à 17 ans sur le thème de la faune et la flore en montagne. Les dessins peuvent être déposés dans une des 5 offices du tourisme de la vallée, Cerbourg, Les Joux, Semonie, Argentière et Valorcine. La technique utilisée est laissée au choix libre de son auteur. Et n'hésitez pas, par contre, à marquer au dos des dessins impérativement le nom, le prénom, l'âge et l'adresse personnelle, l'adresse mail et le numéro de téléphone. Voilà, un jury déterminera le grand prix. Quand du concours 31 juillet, pardon. Et puis dimanche 26, il y a une garden party à la crèmerie de la montagne, route des crèmeries. C'est un nouveau concept. Alors, vous pouvez aller manger tout en le dimanche pour déjeuner et puis vous profiter d'un après-midi musical dans leur grand jardin jusqu'à 18h. Tout de suite, on va écouter la chronique de Justin Cannabidiol.
Cannabinoïde, cannabidiol, cannabis quoi?
Cannabidiol, pas facile à dire. On préfère l'appeler CBD. Produit miracle pour certains, faux cannabis pour d'autres. Globule Radio se plonge au cœur de cette molécule légale et issue du chanvre. Après avoir rencontré l'un des responsables d'une boutique de CBD et une addictologue, je me suis intéressé à ceux qui s'opposent à la commercialisation de cette molécule en France. J'ai rencontré trois jeunes membres du média militant Arva Gauche qui avaient récemment publié une tribune intitulée, je cite, « Chamonix, la banalisation du cannabis ».
Bah, moi je m'appelle Roman Orienso.
Moi je m'appelle Roman Othman, j'habite à Saint-Lange et je suis ouvrier dans une usine de ski dans la vallée.
Moi c'est Adélie Nègre, je suis originaire de Chamonix, donc d'ici. Je travaille chez Postière dans la vallée de l'Arve en bas à Cluse.
Merci d'être là aujourd'hui pour répondre aux questions de Globule Radio. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps présenter votre média Arva Gauche?
Alors, le média Arva Gauche, il a été fondé à peu près en juin 2017. Voilà, nous, on a un collectif de jeunes personnes qui vivent dans la vallée de l'Arve. Il y a des personnes à Chamonix, il y a des personnes à Passy, à Saint-Lange. Voilà, et en fait, nous, on a lancé ce média pour essayer de combler un vide donc, politique. On est vraiment des militants politiques. Donc, on est attaché en fait à l'héritage de la gauche historique. Et donc, voilà, on a lancé ce média pour en fait faire exister cette ligne politique. Nous, on n'est pas là non plus pour dire qu'on est les meilleurs, qu'on est là pour apporter une information objective, neutre. Nous, c'est pas du tout le sujet. Nous, on le dit d'entrée de jeu. On est un média partisan. On a une ligne politique à proposer. Après, on discute. On est d'accord, on n'est pas d'accord.
Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, pourquoi avez-vous publié un article qui a d'ailleurs fait beaucoup réagir sur l'ouverture d'un magasin de CBD à Chamonix?
Nous, on avait eu l'information déjà qu'il y avait ce magasin qu'on a à Chamonix, mais ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Chamonix, c'est pas quelque chose d'isolé. Il y en a eu d'autres avant dans la vallée en France, et que on s'est aperçu qu'il y a plein de choses qui se faisaient à propos du cannabis, mais qu'il n'y avait pas de débat démocratique sur ce sujet. Et nous, c'est pour ça qu'on est là, et j'ai l'impression que c'est un peu aussi le but des podcasts, c'est de faire entendre différents points de vue, différentes positions pour que le débat ait lieu et pas que les choses se fassent de manière unilatérale et qu'il y ait pas de... enfin, que ça se fasse comme ça et qu'on se retrouve tous devant un fait compliqué, des magasins qui proposent des fleurs de cannabis avec pignon sur rue sans que personne puisse dire ce qu'il en pense en tout cas.
Ce qui n'a pas été compris dans notre article, c'est oui, mais là on parle du CBD et c'est pas la même chose que le cannabis puisque cannabis, c'est une molécule particulière avec le THC, un effet psychotrope. En fait, nous, ce qu'on essaie d'alerter, c'est que derrière les magasins de CBD, en fait, il y a un jalon qui est posé dans le débat de société pour déjà arriver à faire entendre culturellement que vendre des fleurs de chanvre, comme c'est le cas dans le magasin à côté, mais comme a dit le camarade, c'est le cas dans... Il y a une centaine de boutiques ouvertes ces dernières années en France où on peut vendre des fleurs de chanvre, en fait. Donc nous, ce qu'on interpelle, c'est de dire en fait, à partir du moment où on met en avant le CBD, avec juste culturellement, en fait c'est très simple, avec une fleur de cannabis sur le produit, qui n'est pas du tout un médicament, on ouvre une boîte de Pandore.
Pour parler vraiment du côté culturel, déjà on a parlé dans l'article justement du nom de l'enseigne, High Society, le High, c'est le fait de planer, quoi. C'est fait rechercher quand on fume des joints. Et du coup, c'est pour donner un exemple du fait que c'est pas anodin de CBD. Il y a certaines enseignes qui mettent en avant justement cette culture-là.
Retrouvez très prochainement la suite de Cannabidiol, la chronique qui se plonge au cœur du CBD sur Globule Radio 90.5. Dans le prochain épisode, on continue notre entretien avec les membres du média Arbre à Gauche. L'intégralité de l'interview est disponible sur notre site web au format podcast. Nous rappelons qu'il faut bien se renseigner sur le CBD, quelle que soit sa forme, ainsi que sur ses éventuels effets indésirables avant de le consommer. La vente est interdite aux mineurs.
Thank you.
avec les copains et il claque les montagnes, il claque les copains, mais son appareil à lui, ben, il ne fait pas de bruit. Des émotions offertes aux yeux. Ceci est encadré par Marie Colonel, un talent de toute la vie aussi, se promener dans son sillage. Il comprend que son travail un an et demi dans sa vie. Et quand la petite photographe Nicolas Delmasco s'est blessée à l'épaule, il ne trouve pas à donner votre contact pour la remplacer, pour couvrir un prêt. Après plein de petites claques, des loupés, de qui vous ressemble, juste vous sortez votre premier livre. Et j'espère que ça ne sera pas le dernier, parce que le tout premier il est super. Vous êtes spécialisé dans la photo de la montagne, de sport, de trail, de kayak, de randonnée à ski, à pied, à vélo, à parapente. Donc vous pouvez nous en parler aussi du chamanisme du ciel, dans votre objectif ou de votre point de vue, quand un résiste en bord.
Alors, vous allez bien?
Chamanisme du ciel, c'est comment? Et c'est très différent la vision de Chamonix d'en haut de la vision de Chamonix d'en bas. Et la montagne, elle est différente aussi quand on est en montagne. C'est-à-dire, parce que là, on la voit d'ici assez facilement, etc. Mais quand on est tout là-haut, quand on prend des photos, dans votre livre, justement, il y a des conditions qui sont. Parfois, des photos qui sont dans des conditions qui sont très difficiles. Comment on vit ça? Comment on éprouve tout ça? Parlez-moi un peu de votre travail de photographe. Est-ce que vous suivez une ligne? Parce que j'ai pas jamais vu, alors peut-être je n'ai pas assez cherché, mais des portraits par exemple, c'est vraiment les éléments naturels qui vous intéressent. Parfois vous placez un humain dedans, mais il est presque. c'est presque pour mettre la matière à l'huile, j'ai l'impression. Je me plante ou pas? Quand ils sont dans un genre d'abandon, en fait, de leur image. C'est là que vous avez gagné. Et du coup, quand vous avez une démarche particulière, pardon, quand vous faites des photos, quand vous partez en montagne, vous partez faire des photos. Ou est-ce que vous partez en montagne puis vous faites des photos? Comment ça se passe? Parfois, si la luminosité, si plein de choses sont en accord, vous faites des photos. Comment on fait? Parce que le matériel est lourd quand même, pardon. Non, du moment. D'accord. Eh bien, écoutez, Quentin Inglésis, qui est photographe, on va faire une courte pause musicale et on se retrouve juste après.
Thank you.